L'affaire Le Couvieur, mort tragique en Bretagne. Eugène Le Couvieur est né le 23 avril 1919 dans une famille modeste. Ses parents n'ont pas les moyens de lui payer de grandes études. Qu'importe, il n'en fera aucune. Eugène est plus un manuel qu'un intellectuel. À l'âge de 12 ans, il quitte les bancs de l'école pour gagner lui-même son propre argent. À 15 ans, il quitte Camors, en Bretagne, pour la Beauce, une région agricole très riche. Après plusieurs travaux saisonniers dans les champs, il découvre le métier de tapissier-décorateur à Paris. Il se révèle particulièrement doué dans ce domaine. Malheureusement, ses aspirations dans la literie sont mises à mal par la Seconde Guerre mondiale. Eugène n'est âgé que de 20 ans. Enrôlé dans l'armée pour faire son service militaire, comme tous les jeunes de son âge, il est capturé par des soldats allemands et détenu dans une prison pendant une bonne partie de la guerre. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il reprend son activité de tapissier-décorateur en fabriquant et commercialisant seul ses premiers sommiers. Il connaît un grand succès. Le développement commercial de ses activités lui permet d'ouvrir une petite entreprise modeste qui emploie 20 salariés. Parallèlement à son activité d'entrepreneur, Eugène Le Couvieur est élu maire de Pluvigné, une petite commune proche de Vannes, en 1966. Il restera à la tête de la mairie pendant de nombreux mandats, jusqu'en 1995. Monsieur Le Couvieur devient une grande personnalité dans sa région, pas seulement pour sa bonne gestion de la ville, mais par ses multiples offres d'embauche. Sa société éponyme, Le Couvieur, est devenue leader sur le marché du lit médicalisé en Europe. En 1991, l'entrepreneur est approché par une société américaine, Hillbrand. Après plusieurs négociations, l'homme, qui souhaite prendre sa retraite et terminer son mandat de maire en beauté, vend son entreprise aux Américains pour 60 millions d'euros. Une somme importante qu'il s'empressera de partager avec son ex-conjointe et ses trois enfants. Chacun d'eux reçoit la somme de 6 millions d'euros. En 10 ans, cet argent a été grandement dilapidé. Les enquêteurs apprennent que tous avaient mené une vie faste. Jean-Jacques s'est offert un yacht, Philippe une Ferrari et Catherine un château. Contrairement à ses enfants, Eugène est très économe. Même avec une confortable retraite, il poursuit ses vieilles habitudes. Tous les mois, il met de l'argent de côté. Nous sommes en juin 2006. Quelques jours avant son départ dans sa résidence secondaire à Vence, en Provence, Eugène rencontre ses trois enfants dans un restaurant à Auray. Très vite, la discussion tourne autour de la rédaction du testament. Ils ont conscience que leur père prend de l'âge et tous s'inquiètent de ce qui pourrait advenir de leur héritage. Face à l'insistance particulière de ses fils, le père de famille se fâche. Il refuse de répondre à leurs questions. Le repas n'est pas encore terminé, mais Eugène quitte la table du restaurant, furieux. Dès lors, il demeure en conflit perpétuel avec ses enfants, à l'exception de sa fille Catherine. L'enquête n'est qu'à ses débuts qu'elle connaît déjà un rebondissement. Et ce, dès le 11 avril 2009, soit deux jours après les faits. Un informateur, qui se fait appeler Monsieur D et souhaite rester anonyme, demande à rencontrer le chef de l'enquête. Le rendez-vous est pris au pied levé, à une table discrète d'un bistrot de Quimperlé. Il donne un nom, Venceslas Le Serre. L'homme est chauffeur de camion la semaine, videur en boîte de nuit le week-end. C'est un homme d'action. Il aime aussi raconter des exploits plus extraordinaires les uns que les autres. Bien souvent, ses amis ont du mal à le croire, mais cette fois-ci, il semble que Venceslas ait dit la vérité, en parlant un peu trop dans son entourage de certaines de ses actions. Le mystérieux informateur, Monsieur D., explique au major de gendarmerie que Venceslas Le Serre s'est vu proposer un contrat par un homme pour tuer une femme, en faisant passer cela pour un cambriolage qui aurait mal tourné. Pour cela, Venceslas devait toucher 20 000 euros. Il lui suffisait d'apporter à son commanditaire quelques bijoux venus de la villa des Le Couvieur en guise de preuve pour toucher son argent. Monsieur D cite également un autre nom, un certain Guénolé. Une connaissance que Le Serre avait recrutée pour être épaulé dans sa mission. L'informateur semble dire la vérité, puisqu'il ajoute des détails que seuls les enquêteurs connaissent sur les circonstances de l'effraction et de l'agression. Suite à ces déclarations, le major Le Gall récupère le numéro de téléphone de Venceslas Le Serre. Une rapide réquisition auprès de l'opérateur téléphonique du suspect principal permet de mettre en évidence sa présence à moins d'un kilomètre de la villa aux alentours de 23h30. Le 12 avril 2009, Le Serre est placé en garde à vue. Le chauffeur, un homme costaud, passe immédiatement aux aveux. Il avoue qu'un certain Loïc lui a demandé d'exécuter Anne-Marie Lecouviour pour la somme de 20 000 euros. Très vite, les rouages de cette mécanique meurtrière se mettent en place dans la tête des gendarmes. Pendant sa garde à vue, le cerf raconte tout en détail. Il réitère ses aveux et confirme les propos de l'informateur. Autrement dit, il devait voler quelques affaires personnelles du couple, dont la chevalière de Gênes, pour prouver que le contrat a été correctement exécuté. Lui et son complice, Guénolé Madé, devaient initialement récupérer le testament de Gênes qui, selon les dires du jardinier, se trouvait dans un coffre. Mais les deux complices n'y sont pas parvenus. Le 9 avril, Venceslas et Guénolé arrivent à 23h à la station d'épuration de Grandchamp à bord d'une BMW grise. Ils garent leur voiture dans ce lieu isolé, s'emparent de quelques affaires, un couteau pliant, un coupe-verre, des liens Serflex et un grand rouleau d'adhésif noir. Chacun emporte une cagoule et une paire de gants. Ils marchent en direction du moulin de la Chênaie, situé à 1 kilomètre de la voiture. Une demi-heure plus tard, les deux complices pénètrent sur le parc de la propriété, à l'arrière de la maison. Ils sont à une assez bonne distance pour ne pas être repérés. Au loin, ils distinguent la lumière de la véranda, encore allumée. Eugène et Anne-Marie sont en train de regarder la télévision. Les deux hommes doivent attendre que le couple parte se coucher. Ils enfilent leurs cagoules et leurs gants. Un peu plus tard, ils distinguent une forme en mouvement dans la maison. C'est Eugène qui monte se coucher. La lumière de la véranda n'est pas encore éteinte. Anne-Marie est encore présente au rez-de-chaussée. Puis, vers 20h30, c'est le noir complet dans le salon. Ce n'est pas encore le bon moment pour agir. Une lumière vient de s'allumer à l'étage, puis de s'éteindre quelques minutes plus tard. Entre 20h30 et 1h du matin, Le Serre et Madé s'attaquent à la porte du local chaufferie. Ils utilisent une hache qu'ils ont trouvée dans le parc, l'outil parfait pour fracturer la première porte. En revanche, ils ne parviennent pas à fracturer la seconde porte, celle qui donne accès à la cuisine. Ils font beaucoup de bruit. Ils décident alors d'employer les grands moyens en s'attaquant directement à la véranda. Celle-ci est munie d'un verre sécurite, un vitrage anti-effraction. Le diamant coupe-verre qu'ils ont emporté avec eux ne leur sera d'aucune utilité sur un vitrage renforcé comme celui-là. Le cerf, qui est le plus costaud des deux, s'occupe de briser la véranda à coups de hache. Jusque-là, les deux malfaiteurs ont beaucoup de chance. Trouver par hasard une hache dans le jardin, c'est une chose. Pénétrer à grand fracas dans une villa sans déclencher la moindre alarme, c'en est une autre. Les enquêteurs prennent en compte chaque détail. Le récit de Venceslas est très réaliste et concorde avec les observations faites par les gendarmes. L'un des deux complices se prend le pied dans une chaise. Il se dirige ensuite vers la chambre du couple. Arrivé devant la porte de la chambre à coucher, les voyous entendent Anne-Marie alerter son mari du bruit violent qui vient de la réveiller. Elle lui demande d'appeler la police. Sans plus attendre, Venceslas ouvre la porte en seulement 2 coups de pied. Anne-Marie se trouvait juste derrière, elle tombe à la renverse au sol, sur le dos. Le cerf s'attaque immédiatement à Anne-Marie, la harcèle de questions. Il lui demande où est le coffre. Cette dernière lui répond qu'il n'y a pas de coffre. Son complice, Guénolé Madé, lui attache les chevilles avec le cerflex en ses renforts. Il s'occupe ensuite d'Eugène, lui pose les mêmes questions. Le vieil homme répond également qu'il n'y a pas de coffre. Pendant ce temps, Anne-Marie fait tout ce qu'elle peut pour sauver sa vie. Elle propose à son agresseur de lui donner de l'argent, sa carte de crédit, ainsi que son code. Le cerf hésite un moment, demande l'avis de son complice. Ce dernier a quant à lui terminé de bâillonner et de ligoter Eugène. Ils sont à présent deux à s'occuper de la vieille dame. Madé répond que l'argent ne l'intéresse pas. Pendant qu'il maintient Anne-Marie immobile, le cerf applique les 21 morceaux de scotch qui lui seront fatales sur le visage de la pauvre Anne-Marie. Après avoir fouillé brièvement la chambre à coucher du couple et emporté quelques bijoux posés en évidence, les deux malfaiteurs quittent les lieux. Venceslas Le Serre raconte ensuite aux gendarmes que le lendemain, lui et Guénolé rencontrent le mystérieux commanditaire, Loïc, sur un parking. Chacun reçoit une enveloppe de 10 000 euros en petite coupure. Le Serre a omis de mentionner à son commanditaire quelques détails, comme l'étranglement d'Anne-Marie.